Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Erner. Donc, comme prévu, les gaz de schiste américains et les conséquences sur l'Europe. Notre invité Jean-Sylvestre Mongrenier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheur à l'Institut français de géopolitique, également chercheur associé à l'Institut Thomas More. On trouvera d'ailleurs une étude de vous, j'ai vérifié ce matin, sur le site de l'Institut Thomas More, une étude sur le thème qu'on reproduira sur notre propre site, franceculture.fr, dans la matinée. Alors, grâce au gaz de schiste, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de gaz et ont l'espoir de devenir, d'ici à la fin de la prochaine décennie, c'est d'autre chose, le premier exportateur mondial de pétrole, lui-même issu en partie du pétrole de schiste. Alors, c'est une nouvelle équation qui modifie les grands équilibres énergétiques. On sait que les énergies fossiles resteront reines. Alors, le gaz de schiste, il est obtenu par fracturation verticale puis horizontale, avec des méthodes très polluantes et nécessitant une quantité astronomique d'eau. Alors, les États-Unis commencent à en exporter, y compris d'ailleurs en Europe. L'Europe en produit peu. Certains pays ayant interdit l'exploration et l'exploitation, comme la France ou la Bulgarie, d'autres en exploitant, d'autres encore ayant institué un moratoire. Donc, le paysage européen est très diversifié, on y reviendra. D'abord, le gaz de schiste, moins qu'on puisse dire, c'est relativement nouveau comme technique.
La technique, elle était déjà utilisée en Australie dans les années 60 pour le gaz de houille. Mais c'est vrai que à partir du milieu des années 2000 à peu près, ça a pris une expansion très importante aux États-Unis, puisque la production elle était quasiment inexistante à cette époque aux États-Unis. Et dans les années 2000, là, les États-Unis s'apprêtaient plutôt à recevoir des quantités énormes de gaz naturel liquéfié depuis le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. En une décennie, la production elle a été multipliée par plus de 10. Et comme vous l'avez rappelé, aujourd'hui, ils sont le premier producteur mondial de gaz depuis 2009 déjà. Et le gaz de schiste doit représenter un peu plus du tiers de la production de gaz américain, voire plus selon certaines études. Et ça représenterait même 17% de la consommation énergique totale aux États-Unis. Et on estime que les États-Unis auraient pour un siècle de consommation de gaz avec leurs réserves en gaz de schiste.
Alors, il faut dire aussi une autre chose, c'est une évolution majeure dans les énergies dans le monde, c'est le gaz naturel liquéfié, puisqu'on le liquéfie, on le regazéifie évidemment à destination, mais c'est très coûteux, c'est de plus en plus pratiqué, et c'est une étape tout à fait décisive dans le transport de l'énergie, donc la liquéfaction du gaz, je crois, vers moins 160 degrés, quelque chose comme ça.
Oui. Alors, ça permet d'exporter ce gaz par méthanier, et c'est là où il y a une véritable révolution, puisque pour l'instant, il n'y a pas de véritable marché mondial, il est en train de se constituer du gaz. Hein, on a trois grandes plaques, la plaque Europe-Eurasie, la plaque Asie-Pacifique, et puis la plaque Amérique du Nord, et ça repose sur des installations fixes, hein, c'est-à-dire des gazoducs hein, qui relient le pays exportateur au pays importateur, hein, donc des installations qui relèvent de la longue durée. Hein, et alors, avec l'expansion du gaz naturel liquéfié, ça doit représenter à peu près aujourd'hui 30% de la production, ça devrait être beaucoup plus. Là, ça permet une mondialisation du marché du gaz sur le modèle du marché du pétrole, et donc des liens beaucoup plus souples, une dépolitisation entre guillemets du marché du gaz, puisque ça offre moins de possibilités aux pays exportateurs d'utiliser le gaz comme outil de pouvoir, de cohésion.
Ou de chantage même, on le voit avec les Russes à l'égard de l'Ukraine depuis une quinzaine d'années.
Voilà, et on a aussi une part croissante du gaz qui sera coté sur des marchés spot, hein, c'est-à-dire des marchés au comptant, des marchés au jour le jour, hein, selon la loi de l'offre et de la demande. On estime que d'ici la fin de la décennie, ça pourrait être à peu près la moitié de la production mondiale de gaz qui serait cotée sur des marchés spot.
Alors ce n'est pas nouveau, mais il y a aussi le gaz qui arrive en Europe par gazoduc sous-marin, évidemment l'Algérie, mais également la Russie directement vers l'Allemagne, c'est le fameux gazoduc Nord Stream qui est très important et qui permet de s'affranchir justement, là on retrouve la géopolitique, qui permet de s'affranchir des itinéraires de gazoducs terrestres.
Oui, mais il ne permet pas de s'affranchir de la Russie. C'est bien là le problème. Le gaz russe, ça représente à peu près 40% des importations européennes de gaz et donc 27% des besoins de l'Union européenne. Et du point de vue russe, ça c'est pas simplement une, comment on dirait en anglais, une commodity, pas une matière première qui serait simplement donc objet de marchandage. C'est un outil de pouvoir, de coercition, comme vous l'avez rappelé. C'est précisé noir sur blanc dans la doctrine de sécurité nationale de la Russie. Et donc, progressivement, à partir de la fin des années 2000, surtout, on a pris conscience, là, du point de vue européen, que ça pouvait être une menace. Et il y a une volonté de diversifier les flux. Alors, il ne s'agit pas de substituer, par exemple, entièrement les États-Unis à la Russie. C'est quelque chose qui serait impossible. Mais en revanche, donc, avoir du gaz, hein, qui vient des États-Unis, avoir aussi plus de gaz qui vient du Qatar ou d'autres pays producteurs.
Alors effectivement, le Qatar, j'ai regardé les chiffres, c'est infime. L'Algérie, c'est moins qu'on ne pense, mais il y a un gros fournisseur européen, d'ailleurs, à l'égard de l'Europe, c'est la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, bien sûr.
Oui, mais alors le problème, c'est que les gisements, c'est aussi vrai pour le pétrole, gaz, les gisements de la mer du Nord à peu s'épuisent. Hein. Si on regarde du côté britannique, on doit avoir à peu près 80% des réserves, en tout cas pour le gaz, hein, qu'on a vidé. Du côté norvégien, c'est 60% des réserves, et c'est pour ça qu'il est urgent de trouver d'autres sources d'approvisionnement. Alors dans les années 2000, on comptait beaucoup sur la Caspienne. Hein, il y a des tuyaux qui sont en train d'être tirés depuis la Caspienne vers l'Europe, hein, mais on a besoin donc de d'autres sources d'approvisionnement. Et puis de surcroît, le gaz de schiste, le gaz naturel liquéfié exporté depuis les États-Unis, eh bien il n'est pas sujet aux mêmes aléas géopolitiques que tout ce qui peut transiter par le Caucase et le pont énergétique turc.
Ce qui est frappant aussi, Jean-Sylvestre Mongrenier, encore une fois, on peut se rapporter à votre étude, donc Institut Thomas More, sur le lien de l'Institut et bientôt sur le nôtre, franceculture.fr. Ce qui est frappant aussi, c'est quand même comment pourrait-on dire, le côté aléatoire de la géopolitique des tubes, ce qu'on appelle la géopolitique des tubes, c'est à gazoduc, oléoduc. Et quand on regarde un peu tous les enjeux depuis une trentaine d'années pour les gazoducs et oléoducs terrestres, c'est fou, et y compris même à l'intérieur des États-Unis ou de l'Amérique du Nord, comme tout cela change de tous les 10-15 ans, enfin, il n'y a pas de continuité dans l'approche géopolitique des tubes, comme on dit.
Sur la plaque Europe-Eurasie, on a quand même une continuité, puisque à partir des années 70, on a commencé à importer du gaz depuis l'URSS à l'époque. Hein, donc là, il y avait quand même des grandes structures, hein, qui persistaient dans le temps. Et donc là, comme vous le dites, effectivement, il y a beaucoup de schémas qui sont en train d'être modifiés.
Oui,
donc, encore, j'insiste, le gaz russe continuera à arriver, hein, mais le fait de pouvoir apporter, par exemple, du gaz américain, c'est un levier aussi dans tout ce qui est négociation sur le prix. Déjà, le prix du gaz russe a été obligé de s'aligner en quelque sorte sur le prix mondial qui est tiré vers le bas par la production américaine.
Et puis on a même vu, il y a peu de temps, mais personne ne s'y attendait vraiment, l'abandon de grands gazoducs qui allaient de la Caspienne vers l'Europe. C'était le projet soviétique, le projet russe, et puis le projet européen Nabucco. Tout ça, finalement, est très sujet à modifications saisonnières, on va dire. Mais on n'a pas le temps de le développer. On y reviendra, si vous voulez, un autre jour. En tout cas, je vous remercie, Jean-Sylvestre Mongrenier. Et ouais, je rappelle, donc, chercheur à l'Institut français de géopolitique.
Merci beaucoup Thierry Garçon.
Franceculture.fr, je l'ai dit.
Oui.